L'humanimalité d'Olivier de Sagazan est une métamorphose qui change sa face jusqu'à en faire la chose innommable greffée sur le cadavre de son visage. Bernard Noël. Rencontre avec Olivier de Sagazan à propos de l'enfer moi et Transfiguration, deux performances qu'il a données à Tours au Volapük en janvier 2012. Entretien avec la participation de David Guignebert et Sophie Gosselin.
C'est drôle. Tout à coup, je ne sais pas quoi dire. Ça m'arrive très souvent. Je sais ce que je veux dire. Je réfléchis avant de le dire pour savoir si c'est bien ça qu'il faut dire. Mais au moment de le dire, pif, je ne suis plus capable de le dire.
Oui, évidemment. Écoutez, vous avez lu Les Trois Mousquetaires ?
Non, mais j'ai vu le film. Pourquoi ?
Parce que... voyez, il y a là-bas Porthos. D'ailleurs, c'est pas dans Les Trois Mousquetaires, c'est dans 20 ans après. Porthos, le grand, le fort, un peu bête. Il n'a jamais pensé de sa vie. Vous comprenez ? Alors, une fois, il faut qu'il mette une bombe dans un souterrain pour la faire éclater. Il le fait, il place sa bombe, il allume la mèche, puis il sauve naturellement. Et en courant, tout d'un coup, il se met à penser. Il pense à quoi? Il se demande comment il est possible qu'il puisse mettre un pied devant l'autre. Ça vous est arrivé aussi, sans doute, hein? Alors il s'arrête de courir, de marcher, il ne peut plus. Il ne peut plus avancer. Tout explose. Le souterrain lui tombe dessus, il le retient avec ses épaules, il est assez fort, mais finalement, au bout d'un jour, deux jours, je sais pas, il est écrasé, il meurt. En somme, la première fois qu'il a pensé, il en est mort.
Pourquoi vous me racontez des histoires comme ça?
Comme ça, un peu pour parler.
Mais pourquoi est-ce qu'il faut toujours parler?
Nous sommes samedi 14 janvier 2012. Nous sommes actuellement au Volapük, en plein sur scène, c'est le démontage de la structure d'Olivier de Sagazan, puisque c'est avec Olivier de Sagazan que nous allons réaliser cet entretien.
Bien, bah ça semble marcher, voilà. Alors, si vous, quand vous parlez, c'est pas de vous approcher du micro. Les micros sont donc ouverts. En tout cas, on peut commencer.
Donc voilà, nous sommes au Volapük. Nous avons eu l'occasion, en fait, de découvrir deux travaux. Donc l'Enfer moi et Transfiguration. Donc Transfiguration qu'on avait vu sur Internet, mais qu'on n'avait pas encore vu en vrai. Donc voilà, vous nous avez fait l'honneur de passer à Tours pour nous montrer en fait cette machine assez infernale qui n'est autre qu'une roue dans laquelle vous êtes absolument pris dans une course folle qui est aussi une recherche sur le mot. Il me semble qu'en 98, en fait, vous aviez déjà cette roue. Et que cette fois-ci, en fait, c'était l'innommable, c'était un travail de corps à corps avec l'innommable.
C'était un concentré, hein. Enfin, j'avais pris des tas de phrases de l'innommable qui me plaisaient bien, en essayant de les agencer sous forme d'un texte, pour essayer de résumer si tant est que faire se peut la pensée de Beckett. Et voilà, et donc m'est venue cette idée de la roue, parce que pour apprendre ce texte très difficile, je le faisais en faisant mes footings, et j'ai trouvé que le côté haletant correspondait bien à ce texte-là. Donc j'ai fait une fois cette performance en 98, j'ai fait cette roue pour une performance. Et j'ai laissé tomber ça pendant 10 ans, parce qu'avant tout je me pensais comme essentiellement comme peintre et sculpteur. Et en fait, il y a 2 ans, s'est révélé à travers Transfiguration la possibilité d'aussi d'un autre médium qui serait celui de la performance, de la danse, du théâtre. Et donc, voilà, j'ai balancé sur YouTube la Transfiguration que je voulais montrer à des amis dans le sud de la France. Et voilà, après ça fait boule de neige. Et puis je me suis dit, vu l'impact que ça avait sur YouTube, que a priori peut-être que je pouvais le présenter ailleurs, ce que j'ai fait, et puis ce qui maintenant est en train de s'embringuer un petit peu, puisque je vais un peu sur un peu partout dans le monde pour faire cette performance là. Et je me suis dit, tiens, mais j'en ai une autre de côté qui était vraiment intéressante, qui reprend en fait la problématique de Transfiguration, mais vue sous un autre angle, si on peut dire, avec des mots des mots pour le dire. Et voilà. Et donc je me suis dit, oui, mais je ne vais pas partir de l'innommable vraiment, j'ai vraiment envie d'adapter un texte à cette roue. Et donc pendant plusieurs mois, là, j'ai écrit, comme on taille un petit bijou, un texte pour cette performance-là, avec cette idée de que ce texte sera un texte ouvert, puisque la problématique étant d'exprimer cette impossibilité à se dire, ce système formel dont on ne peut jamais faire le tour, puisqu'on y est circonscrit, et que donc il fallait laisser quelque chose d'ouvert, et que donc il fallait qu'en disant ce texte, il y ait toujours quelque chose qui puisse à nouveau s'y rajouter, etc. Donc, enfin bon, avant de rentrer plus avant, je vous laisse poser une question.
Vous avez soulevé le fait que, pour vous, il y avait une évidence entre le travail de Transfiguration et celui de l'enfer moi.
Ouais.
Où est-ce qu'il se situe exactement?
Ben, l'enfer moi, le Transfiguration, en fait, le titre, ça pourrait être l'infigurable. Mmh. Et là, maintenant, on dit l'innommable, mais en fait, on dit toujours cette impossibilité à se dire, quoi. Alors, la caractéristique de Transfiguration, c'est une tentative, effectivement, de trouver un visage qui rendrait compte de tous les autres visages. Une sorte d'image originelle. La singularité de cette performance et de ce geste-là, c'est qu'il se fait à l'aveugle. Donc, ne voyant pas ce que je fais, l'intérêt, c'est que les images rendues au public ne sont pas des images vues, mais des images touchées. C'est-à-dire que ce sont donc des images que j'ai ressenties de l'intérieur. Mais il n'y a pas eu cette rétroaction, cette boucle du regard et donc de la pensée qui ferait jugement sur l'image. Donc l'image, elle sort comme ça, blanc, etc. Et ça sort comme ça, sans qu'il y ait l'interdit, sans qu'il y ait ce formatage infernal dans lequel on est depuis notre naissance, qui est nécessaire sur un plan thermodynamique et sur un plan sociologique, etc., pour maintenir la tribu en état de marche. Mais il n'en reste pas moins que le but de la vie aussi, c'est de se défaire, c'est de sortir de sa structure et de se déliaiser, de se déniaiser. Et pour ce faire, il faut effectivement soit utiliser une machine qui s'appelle... le hasard, c'est ce que la vie utilise, grâce à, qui fait apparaître donc des mutations, et que l'artiste, lui, il va jouer aussi avec ce hasard, il peut au moins, plus ou moins, pousser ce hasard. Et de fait, dans Transfiguration, le hasard est énorme, puisque je ne vois pas ce que je fais, et il peut sortir n'importe quoi, et que je ne vais pas corriger le hasard. Et donc, c'est la force de cette performance, c'est qu'effectivement, sort des tas de choses assez étranges, qui évoque plein de personnages, mais bon, là, il y a effectivement une focale énorme, quoi.
Alors, effectivement, on peut aussi penser à Francis Bacon, et surtout à ce que Deleuze a dit de Francis Bacon sur le travail brossage en fait.
L'accident.
Ouais. Sur le fait et qu'on donc il expliquait qu'il y avait que la face était brossée en fait, ce qu'il l'éclatait. Et là, ce qui est surprenant, c'est que il y a comme un passage à l'acte, puisque sur la représentation, en fait, c'est une face qui est en direct brossée devant nous, ruinée, etc. Donc on assiste non pas à l'empreinte, enfin comme la peinture qui fixe cet instant, mais on est beaucoup plus dans la question du mouvement et du geste.
Du processus.
Que ça demande. Contrairement, c'est peut-être pour ça que vous êtes passé de la peinture...
aux arts vivants.
Voilà, à cette performance, parce qu'il y a un travail d'incorporation, mais aussi de où on a la possibilité de voir ce geste-là en train de se faire et... Le fait que la terre tombe, c'est aussi un choc assez fort.
C'est-à-dire que là, effectivement, très souvent, quand vous faites une sculpture ou une peinture, il y a des moments qui sont merveilleux et qui ne sont pas donnés à voir. C'est-à-dire que vous êtes là, par exemple, quand vous faites une sculpture avec du mortier ou du plâtre même, vous avez une réaction endergonique qui fait que, en séchant, le plâtre chauffe. Et comme par hasard, il chauffe à 38-39 degrés. Et donc, température du corps humain. Et quand vous mettez, surtout dans les ateliers, qui sont toujours des ateliers froids, je ne sais pas pourquoi les artistes sont pour les ateliers froids, et donc vous mettez vos mains comme ça sur la tête du personnage que vous faites, et que tout d'un coup, vous commencez à arriver à ce moment où ça se durcit, et ça devient chaud, ça prend 37-38 degrés, Et là, c'est fantastique, parce que là, tout d'un coup, ça il devient comme vivant. Et c'est le moment où il est en train de durcir. Il ne vous reste plus que quelques secondes pour vite lui ouvrir la bouche, lui épater le nez, lui... Tac, tac, tac. Et là, il se passe des choses extraordinaires, mais que vous ne pouvez pas montrer, que seul vous voyez, qu'à la fin, toc, l'image est arrêtée, c'est terminé. Et ce qu'il y a de marrant, d'intéressant dans Transfiguration, c'est que c'est tout ça qu'on voit. C'est-à-dire que c'est vraiment le processus dynamique, la chose en train de se faire qui est donnée à voir. Alors c'est un côté à la fois très pédagogique et en même temps, on rentre un peu dans les coulisses, on rentre dans l'atelier de l'artiste, quoi, puisqu'en fait on est face à quelque chose qui est comme une peinture en train de se faire et puis une sculpture en train de se faire, vivante, là, qui est en train de... On est dans le truc, on est dans l'élaboration. Quoi. Et c'est là où il y a quelque chose de touchant et de d'étonnant.
Et aussi dans l'exposition de la matière, en fait. C'est-à-dire qu'on par ce travail-là, on est beaucoup plus en rapport, en fait, avec les possibilités de la matière qu'avec une forme fixe. Alors, je relisais, en fait, quelques citations que j'avais prises sur la notion de figure ou d'effiguration, etc. Et j'avais relevé une phrase de Hegel qui dit... La beauté ne peut s'exprimer que dans la gestalt, parce qu'elle seule est la manifestation extérieure au moyen de laquelle l'idéalisme, objectif de l'être vivant, s'offre à notre intuition et à notre contemplation sensible. Or, en fait, il semble que... Donc là, on est la question de la gestalt, c'est la question de la fixité, en fait, d'une figure qui se donne et qui ne peut plus bouger. Et tous les mouvements en fait de défiguration, c'est de redonner ce mouvement en fait, qui fait que pourquoi ? Parce que c'est vrai que cette question de la figuration en fait nous a posé aussi des soucis en fait sur la question de l'identité ou de la reconnaissance, etc. Et donc le mouvement aussi permet de toucher beaucoup plus au caractère indéfini d'une chose qui ne se laisse pas saisir.
Mais j'entends bien, et une fois de plus, je suis complètement à l'opposé de Hegel et de Platon, qui sont vraiment pour moi les êtres à abattre, car effectivement, ils sont dans cet idéalisme d'une forme parfaite et... que moi je pense que justement la vie est dans ces entre-deux, dans ces battements. Et comment dire, C'est-à-dire que le Hegel veut justement, rêverait que les mots et les concepts rendent compte de la totalité du réel. Et donc l'obsession d'en faire moi, c'est de bien montrer qu'on n'y arrive pas. Il y a effectivement, la boucle ne peut pas se faire. Donc là, ce dont rend compte la transfiguration comme l'enfer moi, c'est que la boucle ne peut pas se... Et que ce qui est intéressant, justement, c'est cet entre-deux, c'est ce battement. Que les mots sont effectivement des outils merveilleux pour tenter de désigner des parties du réel, mais ne jamais les enferme. Quoi. Et vouloir réduire la réalité à ces mots-là, c'est tragique.
Si quelqu'un veut réagir, David ?
Moi, je veux bien. Je veux bien deux éléments, effectivement, revenir sur deux éléments qui ont été mis en... qui ont été déjà ouverts. Deux choses, un que tu as signalé tout à l'heure en disant, effectivement, il y a quelque chose qui joue de l'ordre de l'image, mais qui n'en passe pas par la vue. Ou en tout cas, qu'on pourrait dire qu'il ne tient pas de la vue. Et comme on sait aussi que la question de l'image a souvent été avec la question de Méduse, comme on dit qu'il ne tient pas du regard, ou qu'il ne tient pas le regard. Tu dois tenir le regard ou tenir du regard. Alors c'est quelque chose qui, moi, m'interpelle, dans le sens où, et deuxièmement, je rebondirai sur le terme de transfiguration, parce que je mettrai justement l'accent non pas sur la figuration ou défiguration, parce qu'elle présuppose déjà la figure, mais le trans, celui, comme tu dis, qui tient de l'interstice. Et c'est celui qui fait matière, celui qui dit « je ne sais jamais où même ça peut s'orienter », voire même « est-ce que ça fait encore figure ?» Et ce que j'ai vu moi hier, c'est qu'à un moment donné, il faut que j'arrive aussi à ne plus envisager cette figure. Et ne plus, d'une certaine façon, envisager même la question du visage. Hein, si on revient même à Lévinas en disant « qu'est-ce qui fait l'humain dans ce qui nous tient, c'est le visage ?» Là, pour le coup, tu nous mets en situation où l'humain est cette matière plus que mouvante. C'est ces deux choses là que je voudrais, dans le terme de transfiguration, retenir le trans comme ce lieu même du non-présence, alors justement à l'encontre de Platon, toujours associé à la présence, et deuxième question, la question de l'image, toi qui viens justement de la question de la peinture, de la monstration du monstre, qu'est-ce que voudrait faire image là où la question du regard est mise en suspens? Et là j'aimerais bien savoir même avec ça, comment toi tu ressens le fait d'exercer un regard qui ne tient pas du voir, ou qui, en tout cas qui ne tient pas de la vue. Comment tu le vis? Comment ça se vit?
Alors justement, transfiguration, c'est une performance qui fonctionne à deux, puisque il y a moi qui suis à transformer mon visage, mais il y a forcément l'idée de l'autre qui voit. Donc, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, je perds la vue, mais je donne à voir. Et si je donne à voir, c'est qu'il y a un spectateur au moins. Donc, cette performance-là prend son sens parce que justement, il y a l'autre en face. Et je reviens là à une idée qui m'est chère, mais enfin, une idée que je trouve belle, en tout cas, en théologie, c'est le concept de kénose, c'est-à-dire que dans ce concept-là, Dieu, pour se rendre visible, doit perdre une partie de sa puissance, et cette perte de puissance s'appelle la kénose en théologie, et Dieu se fait donc une image vivante qui s'appelle Jésus, et donc accède à une visibilité pour les âmes, mais il perd de sa puissance. Et dans toute transe, il y a ce processus de kénose, c'est-à-dire que quand, par exemple, vous avez un chaman qui utilise quelqu'un qu'il va faire entrer en transe, ce personnage qui rentre en transe perd une partie de sa conscience, il est comme ça, mais en attendant, tout d'un coup, il accède à une visibilité de quelque chose qui est impossible pour le restant des spectateurs, et donc il rentre dans une sorte d'intermonde entre le monde des vivants et le monde des morts, et ensuite il revient et il rend compte de ce qu'il a vu. Là, on a exactement ça, c'est-à-dire que je suis peintre, je suis un quelqu'un qui fonctionne avec un outil, enfin un récepteur, quelque chose d'essentiel qui s'appelle la vue. Et là, tout d'un coup, il m'a fallu perdre la vue pour rendre compte de quelque chose, d'une forme d'invisibilité qui était particulièrement étonnante. Et alors là, il y a quelque chose d'assez assez étonnant. Qu'on pourrait s'amuser d'ailleurs à découpler dans d'autres lieux. Donc on se dit, tiens, ça pourrait être intéressant qu'un musicien fonctionnât en se bouchant les oreilles, qu'est-ce que ça donnerait, etc. Et donc dans l'enfer moi, il y avait cette idée dont je te parlais hier, c'était, et si je pouvais parler sans m'entendre parler, quoi. Qu'est-ce que ça irait dire? Qu'est-ce que c'est? Et alors effectivement, là on rentre un peu dans l'idée de l'écriture surréaliste, enfin immédiate comme ça. C'est un peu ça que ça cherche. Transfiguration, oui, c'est cette idée de traverser, quoi. C'est cette idée qu'il n'y a pas d'eidos, justement, il n'y a pas d'entité remarquable qui serait là, suspendue, et qui tout d'un coup, ils viendraient s'incarner en perdant une partie de leur ontologie, parce que c'est un peu cette idée du dénivelé ontologique de Platon. Vous avez le lit, le concept du lit, vous avez le lit fait par le charpentier, vous avez le lit peint par le peintre, là vous avez un dégradé ontologique. Enfin, c'est une, voilà.
Mais pour revenir sur cette idée de dégradé ontologique, justement ce que je trouvais vraiment très fort dans la performance hier, à travers les métamorphoses, toutes ces métamorphoses auxquelles tu te livres, c'est la variété des corps que tu mobilises au final. C'est-à-dire que tu passes d'un corps organique à une disparition, tu deviens pure matière, et puis après, un moment, quand tu enlèves cette chemise, et tu commences à bouger, il y a presque un caractère spectral en fait, fantomatique. Et puis après il y a ce moment très fort, je trouve, où le visage, tu le décroches, le visage de terre, pour le jeter derrière toi, et ça, il se colle sur la surface picturale, je sais pas comment. Et là, tout à coup, ça devient encore un autre corps, un corps encore plus abstrait. Et ce que je trouve très fort, c'est que justement, on n'est plus dans une hiérarchisation des types de corps, des corps qui seraient plus supérieurs à d'autres, mais on est dans une variété des corps sans qu'on sache jamais où passe vraiment la limite entre l'un et l'autre, quoi. Ça, je trouve ça très fort, toutes ces variations, non seulement dans les formes. Au final, c'est pas tant ça, moi, que je trouvais intéressant, c'était la variation des corps que tu mobilisais. Et les états possibles des corps.
Alors ça, c'est apparu petit à petit, parce qu'effectivement, au début, je peignais sur mon visage comme ça, puis après est arrivé, en voyant des films, l'idée de faire un support par derrière qui soit impeccable, etc., comme quand on va filmer une sculpture. Et après est venue l'idée de, alors je ne sais plus comment c'est venu, mais en faisant mes trucs, que ça faisait des projections, je me suis dit, tiens, c'est intéressant ces projections, puis je me suis dit, tiens, mais finalement, le support qui est par derrière moi est encore une forme de représentation imaginale que je pourrais avoir par derrière moi. Donc c'est encore, bien sûr, cette histoire de la peinture, du tableau, par derrière moi. Alors c'est doublement comique, si on peut dire. C'est-à-dire qu'il y a moi qui suis déjà à la fois le peintre et le support. Et puis en plus, dans un geste comme ça d'innocence, par derrière moi, je renvoie encore cette idée-là. Et là, effectivement, on passe de ça à ça, parce que très souvent aussi dans la fin de Transfiguration, je prends mon visage comme ça, parce qu'il est énorme en général, quand il n'y a pas ces problèmes de terre, pouf, il est dans mes mains, et là, pouf, je le balance complètement par derrière, et donc on passe de ça à ça, avec cette idée de vouloir dire que tout d'un coup, on arriverait à mobiliser ce visage qui serait vraiment une représentation intérieure de ce que l'on est, qu'on figerait sur la toile, mais qui, c'est une chose qui, bien sûr, ne se fait jamais.
J'ai envie de rebondir aussi, parce que justement, quand tu parles de support, c'est un des termes aussi qui veut dire aussi subjectum, la question du sujet. Alors c'est en même temps la question du sujet pictural, la question même de la peinture qui accueille le sujet, donc le support là est triplement mis en situation de battement. Et ce qui est là, c'est qu'on sent que c'est plutôt une mise en crise du sujet comme support, c'est-à-dire ce qui pourrait venir stabiliser. Et que ce qui reste, ou en tout cas ce qui vient sans cesse se rejouer, c'est bien plutôt la projection, quelque chose qui est jeté, quelque chose qui jette. chaque fois qui fait que le sujet n'est pas ce qui me supporte, mais on va renverser la question même qui fait que il y a du sujet là où ça jette. Et donc, il n'y a pas cette stabilité, ce qui serait en dessous de ce qui pourrait me contenir. Et je trouve que là, il y a un renversement aussi qui fait que justement, il y a un battement, une mise en battement entre ce qu'on présuppose en peinture comme support, comme projection de, comme sujet, et que là, en mettant justement l'écart que tu produis entre ton propre corps et celui-ci, ni l'un ni l'autre n'est vraiment le support ni de la peinture traditionnelle, ni du sujet traditionnel occidental. Et que là, cet écart, il est fondamental pour aller chercher autre chose, pour aller chercher cette mobilité, quoi, cette insécurité de l'être, si on peut dire.
C'est là tout le truc fantastique, quoi, qu'on n'a pas encore compris, conçu, que Bergson en parle un peu dans son idée du mouvant, mais donc là il y a quelque chose d'hallucinant, quoi. C'est-à-dire que le sujet parlant, pensant, c'est une structure qui en permanence est en représentation. Donc voilà, on a ce support là, mais ça ne le définit pas encore vraiment, puisque ce support c'est comment dire, le sujet parlant est à la fois une structure qui implique cette représentation et cette chose qui jette cette représentation en face d'elle et qui est en permanence dans ce basculement comme ça. C'est-à-dire qu'il est à la fois autodonation, enfin il se donne à voir, et en même temps c'est lui qui balance la matière pour se nourrir. Enfin tu vois, il y a ce basculement comme ça qui... Et non seulement il est là dans ce rapport un petit peu duel que peut avoir un peintre face à sa peinture, mais en plus, il y a un troisième élément qui est la dynamique et ce temps futur qui arrive comme de l'essence dans un moteur et qui en permanence renvoie et refait avancer la mécanique. Enfin, il y a un truc... Enfin, moi, j'ai du mal, c'est très difficile d'en parler parce que c'est quelque chose de... on sent bien qu'il y a ce sujet parlant est un truc qui... alors je sais pas, il y a peut-être des philosophes qui en ont parlé très bien ou des psychanalystes, je sais pas. Enfin, il y a toute une, peut-être que vous avez des éléments, toute une dynamique dans cette structure qui fait que c'est très compliqué, quoi, parce que on sent cet enroulement permanent de la chose en train de se voir et qui se donne à voir et qui donne des choses à voir pour se voir. Enfin, voilà, il y a tout un enroulement. Enfin, j'en parle très bien. reprends cette phrase de Braque, parce que pour moi, elle est essentielle, et c'est ce qui gouverne tous les arts en général, quand il dit « une forme ne m'intéresse que quand je l'ai annexée en la vivant », c'est-à-dire qu'effectivement, c'est cette vieille phrase zen qui dit « pour peindre un bambou, il faut devenir bambou », etc. Et c'est vrai que toute la question, c'est d'être dedans. Et ça, c'est terriblement difficile, quoi, surtout pour un acteur, à chaque fois rentrer dans... Et ça montre bien que il y a toujours cette intériorité, cette extériorité qui doit être rendue compte dans un organisme. Dans Transfiguration, peut-être qu'il y a aussi ça qui est assez étrange. C'est que tout d'un coup, il y a comme une sorte de schizoïdie de cette intériorité, cette extériorité, puisque seul moi suis dans cette intériorité à fond, parce que je vis quelque chose, je vis. Et seul le public voit ce que moi je ne vois pas et que je donne à voir. Donc tout d'un coup, il y a cette chose un peu étrange, quoi, cette mécanique un peu étrange. Et ce qu'il faudrait réussir à analyser et à comprendre, parce que comment ça marche, pourquoi ça marche, c'est-à-dire que moi je rentre dans une sorte d'apnée, je rentre à l'intérieur de moi et j'essaie d'être au plus près de quelque chose que je ne peux pas définir. Je suis vraiment dans un état où je vais être particulièrement sensible à un état de corps, à une forme de kinesthésie, voilà, j'essaie de sentir qu'est-ce que je suis, etc. J'essaie de rentrer dedans. Et donc je vois quelque chose, mais je vois quelque chose qui est comme l'intérieur de l'image, quoi, qui est comme la face négative de l'image, dont la face positive est l'extériorité que tout le monde voit, quoi. Je sais pas si. Et il y a ça, il y a quelque chose d'assez étrange là-dedans, parce qu'en fait, quand un artiste peint une forme, il est dans cette adéquation entre cette intériorité-là qu'il va faire passer sur la toile, comme ça en permanence. Donc il est en permanence dans cet état de projection. Mais lui, il la voit tout de suite, quoi. Et donc, il interagit, etc. Or là, il y a cette projection à l'extérieur, mais il n'y a pas la réception de mon œil, etc. Et donc, c'est ça. Mais je le vois pas. Et donc, je continue comme. Et donc, c'est en fait une sorte de malade mental, quoi, qui fait quelque chose, mais qui va pas jusqu'au bout. Donc, ce qui est rendu finalement, qu'est-ce que cette transfiguration rend compte de cette projection qui donc il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une pathologie, quoi. Enfin, c'est comme quelqu'un qui, voilà, je sais pas, qui voudrait se nourrir mais qui à chaque fois balancerait la nourriture à l'extérieur de lui, quoi. Et ça pourrait devenir un geste assez beau. Enfin, bon, très souvent on voit comme ça des malades mentaux qui ont des gestes qui sont à la fois effrayants mais qui tout d'un coup rendent compte de quelque chose du corps qu'on voyait pas avant, quoi. Et là, il y a, je pense, quelque chose comme ça. Ça rencontre. Alors, bien entendu, on se focalise sur ces images-là. On se dit, il y a des masques incroyables. Mais je ne crois pas que ce soit vraiment ça qui est intéressant. Enfin, c'est intéressant aussi. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui est ouvert là, dans le processus de création, qui est mis à nu, quoi, qui est intéressant.
Et justement, sur la question du masque, ce qui est intéressant, c'est que le masque, ça vient de. Ça vient de persona, qui veut dire personne, et qui veut dire en même temps la, qui peut vouloir dire la personne, mais en même temps, justement, personne, quoi, il n'y a personne. Et je trouve que là, dans ce qui a lieu, c'est comme si c'était personne, dans le sens, justement, pas la personne, mais qui, tout à coup, une espèce d'infra anonyme, comme ça, qui pourrait être celui de la matière, mais une matière non pas substantielle, d'un mouvement. Qui comme s'il poussait, et à un moment, justement, on ne sait plus trop où est la frontière entre l'intérieur et l'extérieur, et c'est ça, c'est vraiment, on le sent vraiment, et c'est ça, je pense, qui est très fort, c'est qu'on ne sait plus qui parle, on ne sait plus qui on a face de nous, on ne sait pas à quoi on a affaire exactement, et toutes les frontières, vraiment, intérieures et extérieures, sont complètement bousculées, parce qu'on ne sait pas si on a affaire à un corps psychique qui, à un moment, se prend corps en une matière, et c'est. Tout ça est complètement en variation permanente. Et je pense qu'il y a quelque chose en rapport avec... Enfin, je ne sais pas si tu peux nous dire un petit peu comment est-ce que la question du masque intervient. Parce que la manière dont tu fais vraiment intervenir le masque, pour moi, tu touches
à la question du masque dans un sens, justement, non pas comme un objet fétiche extérieur, tel qu'il a souvent été mis en scène dans les musées, c'est-à-dire comme si on portait un masque, alors que généralement le masque, au contraire, à un moment, c'est pour se déposséder de sa propre figure de sujet et pour qu'il y ait personne qui parle. Et ce personne, c'est pas simplement une voix divine, je sais pas, c'est... On ne sait pas justement, on ne sait plus qui parle, est-ce que ça va être un ancêtre à un moment qui va se manifester. Mais en tout cas, il y a surtout cette idée d'une espèce d'infra qui serait celui de la métamorphose même. Enfin, moi, je vois quelque chose de comme ça.
Il y a Bernard Lac qui a une phrase qui résume un peu tout ça, et il dit, quand il parle justement de l'infiguré ou de l'infigurable, ça, il dit « quelqu'un est là qui n'est pas quelqu'un et qui n'est pas personne ». Et putain, j'ai relu ce truc-là, je me disais, oui, mais justement, là, c'est là, on est dans ce battement-là, c'est-à-dire que c'est pas Pierre, Paul et Jacques, c'est ce soubassement qui permet très à Pierre, Paul et Jacques d'être là. Et donc, c'est cet infra, justement, qui tout d'un coup, là, est qui semble un peu effleuré, quoi, qui tout d'un coup, sa gueule est mise à nu, quoi, comme un...
Oui, c'est une phrase que Bernard Noël a écrite au sujet de ton travail. Oui, parce qu'il y a ce moment très fort où tu as tellement de matière que ton visage devient plat, on ne voit plus rien. Ouais. Puis après, tu mets les yeux, tu te perces en fait. Tu perces la matière avec les doigts, ce qui est aussi un geste très, très violent, parce que c'est en même temps détruire les yeux tout en même temps les produisant. Quoi. Et après, on imagine que tu ne peux plus respirer. Et puis tu coupes comme ça avec cette matière qui part, et tout à coup il y a la bouche qui apparaît, mais comme un trou. Et là on voit vraiment une béance, et cette béance a l'impression qu'elle donne sur rien. Je trouve que là il y a quelque chose d'étonnant.
En tout cas, il y a une chose certaine.
Michel Foucault, 1966.
C'est que le corps humain est l'acteur principal de toutes les utopies. Après tout, une des plus vieilles utopies que les hommes se sont racontées à eux-mêmes. N'est-ce pas le rêve de corps immense, démesuré, qui dévorerait l'espace et maîtriserait le monde? C'est la vieille utopie des géants qu'on trouve au cœur de tant de légendes en Europe, en Afrique, en Océanie, en Asie. Cette vieille légende qui a si longtemps nourri l'imagination occidentale de Prométhée à Gulliver. Le corps aussi est un grand acteur utopique quand il s'agit des masques, du maquillage et du tatouage. Se masquer, se maquiller, se tatouer, ce n'est pas exactement, comme on pourrait se l'imaginer, acquérir un autre corps, simplement un peu plus beau, mieux décoré, plus facilement reconnaissable. Se tatouer, se maquiller, se masquer, c'est sans doute tout autre chose. C'est faire entrer le corps en communication avec des pouvoirs secrets et des forces invisibles. Le masque, le signe tatoué, le phare, dépose sur le corps tout un langage énigmatique, tout un langage chiffré, secret, sacré, qui appelle sur ce même corps la violence du Dieu, la puissance sourde du sacré, ou la vivacité du désir. Le masque, le tatouage, le phare, ils placent le corps dans un autre espace, ils le font entrer dans un lieu qui n'a pas de lieu directement dans le monde. Ils font de ce corps un fragment d'espace imaginaire qui va communiquer avec l'univers des divinités ou avec l'univers d'autrui. On sera saisi par les dieux ou on sera saisi par la personne qu'on vient de séduire. En tout cas, le masque, le tatouage, le phare sont des opérations par lesquelles le corps est arraché à son espace propre et projeté dans un autre espace. Corps incompréhensible, corps pénétrable et opaque, corps ouvert et fermé, corps utopique, corps absolument visible en un sens. Je sais très bien ce que c'est qu'être regardé par quelqu'un d'autre de la tête aux pieds. Je sais ce que c'est qu'être épié par derrière, surveillé par-dessus l'épaule, surpris quand je m'y attends le moins. Je sais ce que c'est qu'être nu. Et pourtant, ce même corps qui est si visible, il est retiré, il est capté par une sorte d'invisibilité de laquelle jamais je ne peux le détacher. Peut-être faudrait-il descendre encore au-dessous du vêtement. Peut-être faudrait-il atteindre la chair elle-même. Et alors on verrait que, dans certains cas, à la limite, c'est le corps lui-même qui retourne contre soi son pouvoir utopique et fait entrer tout l'espace du religieux et du sacré, tout l'espace de l'autre monde, tout l'espace du contre-monde, à l'intérieur même de l'espace qui lui est réservé. Alors, le corps, dans sa matérialité, dans sa chair, serait comme le produit de ses propres fantasmes. Après tout, est-ce que le corps du danseur n'est pas justement un corps dilaté selon tout un espace qui lui est intérieur et extérieur à la fois? Et les drogués aussi, et les possédés dont le corps devient enfer, les stigmatisés, dont le corps devient souffrance, rachat et salut, sanglant paradis.
L'idée du tatouage, etc., c'est je crois pas que ça renvoie au dieu, enfin, je crois que c'est plus une, justement, cette tentative de... Il nous est donné un corps une fois et pour toujours. Et là, il y a une envie de rejouer dessus, quoi, de se recréer à nouveau quelque chose. Et le fait d'intervenir sur cet espace sacré, c'est une manière finalement de remarquer une deuxième fois le corps par lui-même, quoi. C'est une manière de renforcer sa singularité, même au prix de perdre son image originelle. Mais ce désir de se défigurer, c'est forcément ça participe du processus d'individuation, quoi. Quel qu'il soit, c'est-à-dire que ça soit se mettre un piercing ou je sais pas trop quoi, moi, se tatouer de la tête aux pieds, et même transfiguration, c'est un désir de saisir qu'est-ce qu'il y a de plus intime, de plus fort, et de le marquer. Enfin, donc ça a vraiment un rapport non pas à la transcendance, mais à l'immanence, quoi.
Oui, moi aussi, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. C'est-à-dire que je trouve que là, l'interprétation de Foucault supposerait qu'il y aurait un corps, malgré tout, plein, qui, à un moment, serait traversé par un arrière-monde, quoi, divin. Et là, il reste quand même dans tous les clivages traditionnels sur le sacré. Alors que moi, je ne pense pas du tout que ce soit ça qui soit en jeu dans le masque, dans le tatouage, mais c'est plutôt une manière de réinscrire le corps. C'est-à-dire que le corps, il est toujours déjà... Il y a toujours déjà une faille. Le corps, il est d'abord cette faille qui se déploie dans le monde. Et c'est en fait l'incision ou l'inscription va sans cesse réarticuler cette faille pour redonner forme, permettre à un nouveau devenir, en fait, de se déployer. Et je pense que ce que je trouve beau dans l'art, que ce soit l'écriture, que ce soit ce que tu as montré dans cette je pourrais pas parler de performance. Pour moi, c'est pas ça, en fait. C'est autre chose. C'est plus fort que la performance, qui, elle, cherche toujours un impact. Au contraire, là, c'est quelque chose qui est plus proche du buto, quoi. C'est à la recherche de ce que j'appelle une dimension infra-physique, qui est un moment qui est anonyme. C'est-à-dire que cette intimité, pour moi, l'intimité, elle est pas... C'est pas une intériorité subjective qu'on irait rechercher. C'est plutôt cette faille constitutive qui ouvre en même temps notre possible transformation. Et je trouve que vraiment, alors, ce que tu nous as montré hier, c'était vraiment ça. Et quand tu as terminé, j'ai trouvé ça magnifique. Alors, je sais pas si c'était... Quand tu as dit « la terre n'était pas bonne ce soir », que tu es sorti, j'ai trouvé ça génial, parce que ça a réouvré encore. Ça ne peut pas finir. Cette image dont tu parlais au départ, on peut jamais la trouver, parce qu'au final, ce qui compte, c'est la faille que sans cesse tu nous révèles. Et qui nous trouble au final, parce que justement c'est ça qui fait qu'on sait jamais où est l'intérieur, l'extérieur, où est la limite. On sait plus qui parle. Et là il y a quelque chose qui en effet plutôt de l'ordre d'une forme d'immanence, quoi, qui est pas du tout en rapport à une transcendance, il me semble.
Je pense que là, dans cet extrait de Foucault, il essaye de se tenir à l'endroit de l'ouverture, et il dit dans cette ouverture là quelque chose, et tout peut venir, tout peut arriver. Donc, et effectivement, il y a à un moment donné, dans ce moment où il y a l'ouverture comme ça, où tu ouvres le visage comme ça, et puis tu le refermes. Je pense que effectivement, l'enjeu et la force de ce travail, c'est que ça se tient à l'ouverture, quoi. Mmh. Hein? Après, effectivement, nommer ce qui arrive, c'est là où effectivement on tombe dans l'innommable, on tombe dans l'infigurable, on tombe dans des choses comme ça. Et je crois que la force, c'est d'être à cet endroit-là, quoi, à cet endroit de l'ouverture, quoi, où tout est possible.
À cet endroit-là, je me sens pas. Exactement là où tu engages justement l'idée que il y aurait le corps dont tu ferais l'épreuve avec son intimité et cette défiguration qui viendrait avec lequel tu devrais habiter avec une intériorité et une extériorité que l'autre potentiel, c'est-à-dire nous autres regardeurs, regarderaient comme une face, comme une pièce à double face, intérieur-extérieur. Je ne le vois pas comme ça. Je ne vois pas comme ça parce que pour moi, il y a une immanence, et ça me fait beaucoup plus penser au corps sans organe de Deleuze, dans ce sens où c'est la pellicule qui se trouve entre toi, mais désappropriée par l'espacement de cette défiguration, et nous qui ne pouvons pas nous approprier cette figure. Et en fait, en elle-même, elle agit par-delà toi, par-delà moi. Et elle-même, à un moment donné, prend sa ligne de fuite. C'est elle, en fait, qui ouvre, c'est-à-dire que je ne le vois pas tant entre toi et moi, et il y aurait un intérieur et un extérieur avec sa limite, que serait ce visage. C'est lui qui prend sa ligne de fuite et qui court entre toi et l'autre. Et elle court, c'est-à-dire qu'elle prend la tangente. Il n'y a pas un jeu de regard. Elle prend la tangente réellement.
C'est-à-dire oui, que, ce qui nous trouble vraiment.
Ce qui trouble.
Ça se tient entre nous, en fait.
Voilà. Et ça n'appartient ni à celui qui reçoit cette défiguration, ni moi qui la reçois. Personne ne la reçoit.
Et là,
elle
on
passe.
Est vraiment dans le masque.
Voilà. Enfin, mais le prosopone grec qui justement dit le prosopone c'est pas ce masque qui recouvre un acteur, c'est le prosopone qui peut accueillir la danse dionysiaque, justement, infigurable, et le spectateur qui reçoit quoi? La trouée de la bouche, de quelque chose qui ne peut pas figurer, et en même temps le prosopone est capable de voir l'autre, mais ce qui veut dire c'est que cette surface, elle est mouvante entre le spectateur et l'acteur qui porte le masque. Et le masque en lui-même, c'est le lieu du devenir. Et lui, il n'est pas là pour révéler comme une porte, un petit peu, je suis d'accord, la critique de Foucault, il n'est pas là pour révéler une porte d'arrière-monde, derrière. Non, non, il est là pour dire quelque chose passe. Et qui n'appartient ni aux dieux, ni aux hommes. Il est là quelque chose, une béance, qui n'appartient à personne. Et moi, c'est là où je vois qu'il y a quelque chose qui devient, et qui est, je trouve, une force intense en disant ça n'appartient à personne. Et là, je vois, moi, ce que Deleuze appelle toute cette succession possible de un devenir, en chasse un autre, en chasse un autre, et c'est des lignes de fuite qui sans cesse courent, 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 courent. Et en gros, c'est ce que je verrais positivement dans la tentative que tu fais autour de cette roue. Ça court, mais ça fuite.
Ay. Je reprends parce qu'il y a un terme justement qu'on avait nous croisé, peut-être que tu connais Duligny, Fernand Duligny. C'est quelqu'un qui donc aimait les voilà, ceux qui ne pouvaient pas se tenir, donc il allait voir ces personnes qui, dans un premier temps, étaient ces gamins qui étaient mis dans les, voilà, au rebut, que personne ne pouvait prendre en considération, mais qui étaient encore pris comme des humains. Et puis, par la suite, il a été hospitalier des autistes. Mais au lieu de les configurer à sa propre humanité, il s'est destitué pour dire, mais... Qu'est-ce qu'ils parcourent dans le monde? Quelle est leur façon d'être au monde? Et en fait, ce qu'il a à un moment donné essayé de sentir, c'est qu'il n'y aurait plus l'enjeu chez l'autiste de point de vue, mais ce qu'il appelle un point de voir. Et un point de voir, c'est là où justement le regard ne s'oriente plus, mais où quelque chose, comment dire?
C'est l'interstice qui ouvre, en fait, voilà. La possibilité même d'un regard.
Voilà. Et qui n'appartiendrait ni... En fait, l'autiste ne pose pas un regard sur le monde. Et c'est pas nous, en tant que monde, qui posons un regard sur lui. C'est entre les deux s'ouvre une rencontre qui serait ce point de voir.
Et ce qui est aussi très fort, c'est que sur ce passage, qui n'appartient à personne, et là où c'est très fort, c'est qu'il est aussi, en fait, inappropriable.
Exactement.
Et ça, c'est vraiment un passage qui ne se laisse pas approprier, et sur lequel il n'y a aucune prise possible. Pour nous, spectateurs, on ne peut pas finalement capitaliser hein, ce qui se passe, et y compris, j'imagine, pour toi qui es dans ce geste. Je pense que c'est là où on assiste à quelque chose qui est de l'événement, hein, de l'inouï, qui, sur lequel on ne peut pas faire d'arrêt hein, d'une certaine manière.
Brian Munchef aurait dit l'instant.
L'instant. Transfiguration.